tout de suite. Retrouvez le créneau série sur Radio Bartas.
Vous écoutez le créneau série sur Radio Bartas, c'est le 9e épisode avec Véronique Barnier, avocat du Loup et avocate au barreau de Lozère.
La parole est à la défense, dans l'ordre que vous voulez.
Monsieur le Président, mesdames du tribunal, je me lève la première pour tenter de sauver la peau du loup. Et je ferai une première observation, parce que c'est avec émotion qu'en tant que représentant du barreau de Lozère, je reviens dans ce tribunal. Et après avoir entendu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, il y a deux éléments en fait, qui ont fait que ce tribunal est voué à disparaître. D'une part, il a été décidé par Paris que ce tribunal était inutile, et d'autre part, que financièrement, il n'en valait pas la peine. Vous ferez un parallèle avec le loup, puisque c'est comme ça qu'on vous a, requis aujourd'hui les sanctions. Et donc, nous avons perdu le combat, pour le tribunal d'instance de Florac. Je rends hommage quand même aux organisateurs de Les Arts au Soleil de nous permettre en fait, de mettre une dernière fois le projecteur sur ce tribunal où nous avons tant aimé venir, où il y avait une ambiance particulière. Vous le voyez aujourd'hui, bon, le soleil n'est pas là, mais c'était, on ne plaide pas à Florac comme on plaide à Mende ou à Marvejols. Et c'est dommage, et en tout cas... Si je puis vous suggérer un second sujet, puisque vous avez mis en exergue une organisation, assez étonnante, il faut rentabiliser cet effort. Le second sujet pourrait être le maintien des services publics dans les départements ruraux, parce qu'aujourd'hui, pour prendre juste un exemple, et j'en terminerai là, le justiciable de Saint-Germain-de-Calberte qui veut aller devant son juge de proximité, il est aujourd'hui à Mende, c'est 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir, si on l'entend. Donc voilà, nous avons perdu le combat, pour le tribunal d'instance de Florac, mais nous entendons bien gagner celui du loup. Et nous plaidons évidemment la relaxe. Et je dirais que plusieurs éléments font que nous pouvons évidemment parvenir à notre objectif. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, que nous sommes dans un faux procès, mais la consigne avait quand même été donnée de respecter les règles procédurales le mieux possible. Alors nous n'avons pas déposé in limine litis des conclusions de nullité parce que nous avons été déstabilisés en fait. D'un côté, nous étions d'accord pour venir à Florac, tribunal de police, et la partie civile poursuit le loup pour un meurtre. Donc la juridiction nous posait difficulté. Le fait, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, ce matin, qu'on adaptait des règles, du code pénal ou code procédure pénale à un animal, ça nous a également déstabilisé. Mais là où j'en veux plus, si je puis dire, à l'organisation, c'est qu'il y a un parti pris. Quand on nous dit le faux procès, le vrai faux procès du loup, pourquoi c'est le loup ? Il n'y avait pas un autre moyen, intitulé qui pouvait être donné à ce vrai faux procès. Nous sommes là aujourd'hui. Dès lors que nous disons le vrai faux procès du loup, il y a quand même, une difficulté, parce qu'à mon sens, c'est peut-être l'homme qui devait être également présent à ce procès. Et peut-être, si je veux provoquer un peu, dire le chasseur. Parce que finalement, on a aujourd'hui, balancé pas mal de chiffres ce matin sur les prédations réalisées par le loup. Mais si, M. Benamou l'a indiqué tout à l'heure, le concurrent direct, du loup dans la nature, c'est quand même le chasseur. Et en matière de chasse, il y a quand même, si on se remet sur les statistiques, 22 morts, pour le coup, humaines chaque année, et un quart sont des champignonneurs ou des randonneurs. Donc, ça pose difficulté. Au secours. Ma carrière d'actrice n'est pas encore lancée, parce que j'ai quelques... Je vais progresser.
On vous entend bien.
On m'entend ? Voilà, mais d'essayer de ne plus bouger. La deuxième chose pour laquelle j'ai accepté cette mission, c'était je savez d'ores et déjà que Gérard Christol serait, mon mentor dans cette affaire. Et donc, nous avons décidé d'organiser la défense de telle manière que je sois, si je puis dire, l'avocat de terrain qui allait récupérer les infos. Donc, je dirais, en étant en Lozère, j'avais peut-être un peu plus de chance de rencontrer des scientifiques, les administrations lozériennes, la DREA, la DDT, et les associations pro-loup. Donc, dans, je dirais, ma mission, c'est plus, je dirais, de nourrir par des éléments techniques. Alors, évidemment, je suis avocat généraliste, des spécialistes, vous les avez entendus ce matin, je n'ai pas la prétention de faire un symposium, je serais ridicule dans cet exercice. Donc, c'est juste remettre en lumière un certain nombre de points sur le plan juridique et technique. Et Monsieur le bâtonnier Christol reprendra la parole et vous permettra, si je puis dire, de faire évoluer vos positionnements, les convictions si vous en aviez, et élèvera, si je puis dire, le débat. Alors, pour la relax, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, se pose la question du mise en examen. Si on avait été dans le cadre d'un meurtre, en fait, on aurait quand même, je dois le dire à l'attention du public, on aurait eu un dossier qui eût été réalisé, on aurait eu un juge d'instruction qui aurait été désigné, on aurait un dossier, je dirais, construit avec des expertises, des procès-verbaux, des transports sur les lieux éventuellement, ça eût été génial, ou une reconstitution. Là, évidemment, nous sommes un petit peu, en la panique. Et la première question que vous devrez vous poser dans le cadre du délibéré, c'est qu'on vous annonce, des meurtres qui auraient été commis par le loup ou les loups, puisqu'on vous a dit en bande organisée. Donc, je pense en déduire qu'il y en a au moins deux. Et dans ce cadre-là, vous devrez quand même vous poser la question, avons-nous la certitude que le responsable est un loup? Parce que j'ai posé la question ce matin, comment fait-on pour déterminer si on a affaire à un loup ou un chien divagant? Puisque Madame Carbone nous a rappelé que la question n'était absolument pas réglée et que, mis à part des analyses ADN, on ne pouvait pas déterminer précisément si on avait affaire à un loup ou un chien divagant. Donc, premier élément qui, quand même, devra, vous mettre dans une position inconfortable si vous aviez l'idée de suivre les réquisitions de Monsieur le procureur de la République. L'autre observation que je voulais faire, et Monsieur le procureur de la République a, largement défloré le sujet quant au texte applicable, donc je ne reviendrai pas sur la convention de Berne, la directive Habitat. Ce que je voulais dire par rapport à ce qui nous a été indiqué ce matin, où on nous a dit la convention de Berne, il faut absolument en sortir, c'est une catastrophe pour les éleveurs. Il y a la directive Habitat en 2000, mais surtout depuis 2011, et je dirais encore plus depuis 2013, au niveau réglementaire, c'est une avalanche de textes qui sont quand même très favorables aux éleveurs, et je dirais qui jouent contre le loup, prétendument une espèce protégée. Et je dirais qu'il y a un certain nombre de glissements qui existent et qui rendent, je dirais, la vie du loup plus que difficile, et j'ai du mal à comprendre pourquoi on veut aujourd'hui le cantonner dans un territoire. Je rappellerai que nous sommes à Florac, capitale du parc national des Cévennes, et que le parc a considéré que le loup était un obstacle au maintien de la diversité. Il a été également bouté hors du parc national des Écrins. Vous n'avez pas précisé, monsieur le procureur, quel serait le territoire vierge où on pourrait recevoir le loup. L'île du diable. Ça reste très compliqué. Et je disais que les textes, les arrêtés ministériels qui ont été pris depuis 2011, c'est un glissement contre le loup. Il n'y a pas de seuil quantitatif, notamment par. Je rappelle qu'au départ, les éleveurs, pour éviter, d'être victimes des prédations du loup, selon les textes, doivent déjà protéger leurs troupeaux. De l'autre côté de la barre, on nous a dit « mais c'est évident qu'on se protège parce que de toute façon, ça ne nous amuse pas de voir nos brebis égorgées par les loups ou les chiens ». J'ai pris connaissance d'un document établi par la DTE le 9 septembre 2015, qui est quand même relativement récent, DTE de la Lozère, qui précise en fait que du 1er janvier 2015 au 4 juillet 2015, il y a eu 40 constats de dommages. Sur les 40 constats de dommages, il y avait 5 exploitations protégées. Donc déjà, on ne peut pas dire tous les éleveurs se protègent. Et parmi ces 40 constats, une exploitation avait fait l'objet de 3 attaques et 2 de 2. Donc ce qui revient évidemment à confirmer ce que disait Geneviève Carbone ce matin, c'est-à-dire que les exploitations non protégées, évidemment, sont les cibles privilégiées pour des attaques répétées. Et que la première mesure à prendre pour ne pas subir les attaques du loup, c'est peut-être de mettre en place les mesures de protection. Et les mesures de protection, on l'a rappelé, mais ce sont des mesures qui sont prises en charge à 80%. Il y a un problème, Madame Carbone l'a rappelé ce matin, à assumer le fait qu'on se protège, donc par rapport à certains, on a du mal à peut-être assumer. J'y reviendrai sur ce point-là, mais la protection, c'est la première phase des mesures qui seront, considérées par le juge administratif. Et ça, déjà, en Lozère, on n'est pas encore au point sur ce problème-là. Il est encore facile, après, de venir reporter la responsabilité sur le loup. José Bové, ce matin, a expliqué, après, il y a un arsenal législatif réglementaire où il faut, en gros, avoir un bac plus 15 pour comprendre comment il s'enchaîne, tellement c'est compliqué. C'est vrai que l'arsenal se complexifie ou est complexe dans la mesure où on remet des couches depuis 2011, à peu près tous les ans. Il y a des arrêtés ministériels, il y a les arrêtés préfectoraux qui viennent compléter les 10 arrêtés ministériels et qui expliquent notamment que vous avez les tirs d'effarouchement qui peuvent être utilisés pour, éloigner les loups des exploitations, les tirs de défense qui, au départ, en fait, ne devaient intervenir que sur le terrain, les pâturages ou les parcours des éleveurs qui sollicitaient une autorisation administrative du préfet. Cette mesure des tirs de défense s'est avérée insuffisante. Ce sont les tirs de défense renforcés qui ont été créés avec plusieurs tireurs. Ça n'a pas suffi. Des unités d'action ont été créées et on s'aperçoit en fait que ces unités d'action sont, instaurées avec une arrière-pensée contre le loup, puisque il suffit d'un animal, d'une brebis tuée pour justifier l'abattage d'un loup. Je rappelle au niveau des statistiques que les prédations du loup représentent 1% du volume, si je puis dire, des brebis. Donc c'est quand même, très faible, contrairement à ce que laissait sous-entendre Monsieur le procureur de la République tout à l'heure. Le deuxième argument qui joue contre le loup, c'est qu'en fait les arrêtés interministériels devaient déterminer les départements concernés par, ces mesures. On voit que là aussi, il y a une escalade. Au départ, il y avait 14 départements concernés. En 2014, c'est 20 départements concernés. Après, le glissement, qui se fait à l'encontre du loup, c'est aussi parce que les notions ne sont pas définies. Quand on nous dit qu'il faut avoir des dommages récurrents et ou exceptionnels, à partir de combien on fixe le dommage récurrent, le dommage exceptionnel? Qu'est-ce que c'est qu'un troupeau protégé? Tout en sachant qu'il est possible d'utiliser des tirs de défense renforcés alors que le troupeau n'est pas protégé. La notion, c'est lorsque un troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé. Là aussi, Madame Carbone disait que le brouillard empêchait, de prendre un certain nombre de mesures. Quand on lit les différents arrêtés, là, la manière dont il est rédigé joue vraiment contre le loup. Et pour, je dirais, apporter un petit peu de concret dans ce débat, je voudrais juste reprendre la jurisprudence administrative par rapport au grand cormoran, en fait, qui est une espèce protégée comme le loup et qui a causé des dommages importants aux pisciculteurs. Et le Conseil d'État a dit que pour pouvoir indemniser les 10 victimes, il fallait que le préjudice inhérent à l'activité présente un caractère spécial et grave et que ce préjudice ne soit pas regardé comme incombant à une activité normale. Préjudice, je vais aller très rapidement. Le préjudice spécial, encore ça, on peut, penser que pour ce qui était adapté, ces notions étaient adaptées au loup, il n'y aurait pas de difficulté puisque tous les départements français ne sont pas concernés par la présence du loup. Actuellement, pour faire simple, on va dire que le loup est dans les massifs essentiellement. Paris ne connaît pas le loup. La gravité, là commence, je dirais, les difficultés si cette jurisprudence devait être appliquée aux éleveurs, parce que la gravité, selon le Conseil d'État, c'est quand ça représente, je dirais, un budget certain. Alors quand vous avez deux brebis qui ont fait l'objet de prédations, certes, je comprends la détresse et le mécontentement. Des éleveurs, mais le préjudice pour le Conseil d'État, en fait, c'est quand il y a des milliers d'euros, voire des millions d'euros, en tout cas dans l'hypothèse du grand cormoran. Et le dernier, le dernier axe du Conseil d'État, c'est où est l'aléa, l'activité, là où l'activité, enfin l'aléa dépasse l'activité normale et anormale. Et c'est là, je dirais, tout ce qui, toute la problématique des éleveurs. Où est-ce qu'un éleveur vit dans un monde aseptisé, loin du prédateur? Alors évidemment, s'il est sur l'île viviable, ça règle en théorie le problème, mais tant que la solution proposée par M. le procureur n'est pas avalisée, à mon sens, il faut que, comme on l'a dit, l'éleveur, le loup, puisse cohabiter, et c'est là où il faut trouver des solutions, et chacun doit apporter sa part à l'édifice. Dans le dossier, pour justifier, je dirais, le meurtre, moi je pense qu'il lui fallu aussi démontrer que l'éleveur avait fait ce qu'il fallait, dans la mesure où le loup est une espèce protégée, pour démontrer que la part de protection du troupeau avait été réalisée. Dans le dossier évidemment adverse, on n'a rien à ce niveau-là, et il faut comprendre que la législation implique après un certain nombre de mesures de destruction des troupeaux une fois que ce premier stade est acquis. Alors, ce matin, il y a eu, je dirais, des échanges en fait sur les fameux arrêtés ministériels qui ont fixé le nombre maximal d'animaux qui peuvent être tués. Je rappelle quand même qu'en 2013, c'était 12 loups qui, en théorie, pouvaient être tués, 24 en 2014. Tout en sachant qu'entre 2012 et 2013, la population lupine n'a pas multiplié par deux. Donc on voit très bien que la logique qui est annoncée, ce n'est plus une logique de protection du loup, mais une logique de régulation, ou en tout cas de destruction, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Et là, heureusement, je ne sais plus qui l'a rappelé, il y a un certain nombre de recours, c'est M. Benamou qui l'a rappelé, les chiffres ne cessent de croître, et heureusement, je dirais, les associations pro-loup, en fait, usent des voies juridiques, en fait, pour pouvoir, contester les 10 arrêtés, parce que la population, on indique aujourd'hui qu'elle est entre 198 ou 200 de loups, mais ce sont des statistiques, en fait. Il semblerait que la population lupine en France soit nettement inférieure. Et en tout cas, il n'y a pas eu de petite puce pour identifier les 198 ou 202 loups. Donc un arsenal juridique qui est la dernière couche qui a été posée, c'est l'arrêté du 30 juin 2015 par Madame Ségolène Royal et qui, pour montrer en fait comment cette escalade croît, a permis l'autorisation pour la réalisation des tirs de défense, pourra être valable pendant 5 ans. Alors que si vous regardez les premiers textes, c'était 1 mois, 2 mois, 6 mois. Puis là, maintenant, on passe à des stades en fait, qui sont, je dirais, de plus en plus importants.
Oui, je parle plus fort.
Au regard des éléments dans le dossier pour la démonstration du meurtre, à mon sens, vous ne pourrez pas entrer en voie de condamnation. Et vous devez quand même donner, je dirais, au regard de cette journée, une solution ouverte, en fait, à l'ensemble des parties. C'est, on nous a dit tout à l'heure de l'autre côté de la barre qu'on voulait du vivre ensemble, mais... avec le loup le plus loin possible. Je voudrais quand même revenir sur les autres facteurs qui expliquent en fait quand même la dégradation, je dirais, de la situation des éleveurs. On nous a dit ce matin, il y a environ 6 millions de brebis en France. Il y en a 4 500 en fait qui sont allaitantes et le reste qui est laitière. La filière laitière marche très bien, je crois. La filière allaitante a perdu quand même la moitié de son effectif en 15 ans. Donc on ne peut pas utiliser le loup après pour, je dirais, cautionner en fait toutes ces difficultés, outre ce qui a été expliqué évidemment ce matin. Et ce qui explique le plus les pertes, je dirais les 600 000 brebis qui ont été évoquées ce matin, ce n'est pas évident. Je vous ai dit que c'était 1% sur les 600 000 qui étaient, je dirais... du fait du loup. Après, ce qui explique les autres pertes, ce sont l'ensemble des maladies qui peuvent toucher les brebis, les accidents, les chutes, etc. Alors, je sais que ça fait hurler Monsieur Grelier, mais à la lecture de la presse d'hier, je crois, on s'aperçoit en fait que dans l'Allier, épidémie de la maladie de la langue bleue. C'est, donc il a fallu mettre en quarantaine, je ne sais plus, un nombre impressionnant de bêtes. Les maladies, j'ai sorti la liste des maladies en fait qui peuvent toucher les chèvres. Il y en a un nombre incalculable. Et les statistiques font que les loups tuent 50 fois moins de moutons que les maladies. Donc, pour remettre un petit peu, je dirais, les chiffres dans leur contexte. Et alors, on a parlé ce matin de sortir de la Convention de Berne. Vous vous rappellerez quand même que sur le plan national, en 2013, il y a été fait un sondage. Les Français ont répondu, je dirais même massivement, en fait, en disant qu'ils étaient pro-loup, puisque les questions qui étaient posées étaient relativement simples. C'est est-ce que vous êtes d'accord pour que le loup reste un élément du patrimoine naturel ? Toutes les réponses du sondage en 2013. Si, monsieur le procureur, c'est l'IFOP qui est.
Ah bah. Attendez, on n'en est pas encore au stade des répliques, donc je vais terminer de plaider.
Je maintiens que l'IFOP a fait un sondage en 2013, qu'elle a posé, je dirais, les questions sur la. Comment les Français percevaient le loup positivement à 80%. Est-ce qu'ils étaient d'accord pour qu'il soit éradiqué ? Réponse non à 76% de mémoire. Donc, quand on nous dit qu'il faut sortir de la Convention de Berne, mon contradicteur l'a rappelé, la Suisse a déjà essayé, elle s'est vue opposer un refus. Je pense que la France, qui a déjà initié une procédure, recevra à peu près la même réponse, puisqu'il faut, un maximum de signataires et qu'à ce jour, on n'est pas dans cette configuration-là. Et donc, à mon sens, pour que le vivre ensemble, la cohabitation soit possible, il faut non pas modifier l'arsenal législatif, réglementaire, européen, etc., mais revoir un petit peu notre positionnement, parce que il est trop facile en fait de faire un clivage entre l'éleveur, le loup et puis par exemple les écolos. Parmi les éleveurs, il y a des éleveurs qui sont favorables au maintien du loup sur nos territoires.
Et j'en veux pour exemple, alors je ne suis pas une adepte de Facebook, mais vous savez ce que c'est que ces réseaux sociaux. J'ai un exemple récent, puisque c'est la semaine dernière, où un internaute a posté une image d'un veau éventré sur Facebook et faisait part de son... Il disait « Autopsie de la gorge d'un veau tué par un loup, vous pouvez comprendre que je ne veux pas élever des veaux pour les faire dévorer par les loups. Oui, je suis en colère. » Un internaute lui répond « Comment il aurait fini ce petit veau ? J'ai un ami qui élève des aubrac et qui a la même mésaventure et à qui la même mésaventure est arrivée et il ne partage pas ton point de vue. Il pense que le loup est une chance dans nos régions et qu'il suffit de l'adapter. » Un troisième internaute surgit « Donne le nom de ton ami qui a eu attaque sur des aubrac et qui est prêt à cohabiter avec les loups. Je dois le connaître, mais ça va poser le problème car il est imaginaire où tu diras pas par confidentialité. Ben non, on ne cohabitera pas avec les loups, on les butera jusqu'au dernier. Si toi ta paye, on t'en prend un peu tous les mois, qu'est-ce que tu dirais ? Mort au loup. » Et le deuxième internaute répond « Mais si, tu le connais, c'est ton voisin. » Et réponse de l'internaute un peu énervé « Ben non, je ne le connais pas, ce n'est pas un de... » Bip, je ne vais pas dire le village, « car ils ne cohabiteront pas avec les loups, mais je pense voir. J'espère qu'il en aura pas... qu'un veau de bouffer, mais tous, et que même ces gamins se fassent bouffer, et après on verra. Jusqu'au dernier, il faut les abattre, et là, on sera débarrassé. Au moins, il n'y en avait pas, et cela, c'était très facile. » C'est pour montrer qu'il y a quand même des éleveurs, en fait, qui ont des positions, évidemment, très tranchées, qu'aujourd'hui, évidemment, on est là pour, que le débat soit ouvert. Moi, j'ai rencontré un éleveur qui est favorable au loup, mais qui ne souhaitait surtout pas donner son nom, évidemment, compte tenu de, des tensions qui existent en fait entre les éleveurs pro-loup et anti-loup, et qui indique « Je suis éleveur de vaches allaitantes. Mon troupeau compte 80 bêtes. En novembre 2013, mon troupeau a subi une attaque de loup et un petit veau a été tué. Le ou les loups ont mangé une cuisse, le museau et la langue. À cette époque, la neige venait de nous surprendre et la sagesse, eut voulu que je rentre mes bêtes. Des préoccupations familiales ont été la cause de mon attaque de vigilance. Je n'ai rien contre le loup. Au contraire, je pense que c'est une chance pour notre territoire. Avant, le loup était là. L'homme l'a chassé. Maintenant, il revient. C'est la nature. Sa présence prouve que notre civilisation des villes n'a pas encore tout pollué. J'ai fait le choix de vivre à la campagne et je suis heureux d'habiter un pays où les loups sont revenus. » Donc il y a matière, il y a des hommes qui font partie des systèmes d'éco-volontariat, notamment enfin, l'association Férus a développé ce système-là, on l'a dit ce matin, il n'y a pas assez de bergers, de présence humaine, et donc il y a même des volontaires en fait, qui sont là, qui sont prêts à aider les éleveurs, mais on est dans une situation de tension telle que même ces éleveurs-là en fait, n'osent pas dire aux autres en fait, qu'ils participent et qu'ils acceptent en fait, que le loup soit présent sur le territoire. Et je pense que cette journée, en fait, outre que vous ne pourrez condamner le loup, devra se terminer sur, une réflexion que chacun se décentre en fait pour voir quelle est la position à adopter. Tout à l'heure, Monsieur le procureur a dit qu'il faut ramener le loup sur l'île du diable. Madame Carbone, ce matin, a dit « Mais qui sommes-nous pour décider de supprimer une espèce ? A-t-on le droit de décider de supprimer l'espèce ?» On en revient à l'utilité, sûrement. C'est en ce sens qu'on nous dit « Le loup ne sert à rien, donc on doit l'éradiquer ». L'être humain n'est-il pas aussi capable des pires atrocités ? On regarde tous la télé, tous les jours, il y a des atrocités, des enfants qui sont mis dans les machines à laver. Enfin, vous n'avez pas besoin, faire un rétro-pédalage dans l'actualité pour voir, des atrocités. Est-ce que le fait que le loup ait pu commettre des prédations justifie son éradication, l'élimination d'une espèce ? Voilà, je voulais ouvrir le débat, si je puis dire, et terminer par citation de Boris Cyrulnik. Mais l'homme appartient certainement à l'espèce la plus douée pour se soumettre au récit qu'il invente. Le loup en sait quelque chose, puisque dans l'esprit des humains, c'est le juif des animaux. On lui attribue des pouvoirs extraordinaires qui, en cas de malheur, deviennent des maléfices. Il devient alors moral de l'exterminer. Je termine avec un petit peu de poésie, le Gérard Philippe, un extrait évidemment de La mort du loup.
le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Puis, il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde. Le clou est au gazon, tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistre croissant. Il nous regarde encore, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche. Et sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils, qui tous trois avaient voulu l'attendre. Et comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seul subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux? C'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse.
Merci, maître. On va peut-être rester sur cette note poétique quelques instants. Est-ce que monsieur le bâtonnier souhaite enchaîner immédiatement? Oui. Alors, vous avez la parole.
Dans le prochain épisode, vous entendrez la quatrième et dernière plaidoirie par l'avocat du loup, Gérard Christol. À la semaine prochaine.